Ermite ornementale. La Baule, Nantes, 1925-1928. Les années folles leur ont vraiment été, à l'Ouest. Preuve en est de cette mode des ermites ornementaux, qui apparut lors de l'essor de la station balnéaire de La Baule et chez les riches propriétaires des Folies nantaises. Lorsque La Baule, B-O, accent circonflexe L, devient La Baule, A-U, B-A-U-L-E, en 1896, cela fait déjà quelques années que le projet de créer une station balnéaire ex nihilo a pris son essor sous l'initiative de messieurs Encart et Darlu, de l'architecte Lafont, puis de celle du négociant en épices Gageot. L'arrivée du chemin de fer, l'action de la Société des Dunes, qui cède le lieu à la Société des Instituts Marins, s'occupant des enfants tuberculeux de familles riches, l'usine électrique en 1900, puis le tramway à pétrole, ont stimulé la construction de près de 300 villas dans des quartiers tracés au cordeau par des avenues au titre parfois pompeux. L'Institut devient un casino en 1904. Un hôtel de luxe ouvre en 1908. Mais l'essor de la ville est ralenti en 1914. La Première Guerre mondiale, qui arrête toute activité touristique pendant 5 ans, a des répercussions inattendues en presqu'île guérandaise. Celle-ci étant pendant cette période un centre important de débarquement, de garnison et de repos des alliés, elle, c'est-à-dire La Baule, connaît les années suivantes un afflux considérable de touristes anglo-saxons, ainsi que le traduit l'appellation des nouveaux hôtels comme Cécile, Morgan, Select. C'est justement en 1920 que le petit-fils d'un excentrique anglais, Charles Hamilton III, acquiert une vaste villa avec parc de 12 hectares dans le quartier fortuné du Bois d'Amour, créé par le promoteur Louis Lajarigue à La Baule afin d'y demeurer. Il espère que l'air marin tant vanté sera bénéfique à sa fille Davida, créature éthérée, toujours vêtue de jupes pastel et amatrice de vélocipèdes, diagnostiquée alors comme pulmonaire. Totalement fascinée par la personnalité de son grand-père, ce riche industriel, dépositeur d'un brevet dérivé de la trouvaille de Joseph Brahma, qui a inventé en 1778 le clapet anti-retour et le siphon sur les chasses d'eau, et invention en plein boom. Ce riche industriel décide donc, pour se démarquer, de faire comme son aïeul et d'embaucher un ermite ornemental. L'idée est autant baroque que littéraire et esthétique. Il s'agit de rémunérer un homme pour qu'il vive dans une grotte artificielle au fond d'un parc alternant pelouse rase et végétation à l'anglaise. L'individu, barbu et farouche, doit vivre en robe de bure, se nourrir frugalement. Il s'engage contractuellement à déambuler à heure régulière devant sa caverne, à chanter, à marcher en lisant sa Bible, en priant et proférant des psaumes, si possible en grommelant dans sa longue barbe qu'il veillera à ne jamais peigner. L'entretien des abords, d'une végétation touffue et romantique, est à sa charge. Il a une autorisation exceptionnelle de sortie annuelle pour droit d'affouage, c'est-à-dire de pouvoir sortir se procurer du bois pour se chauffer durant l'hiver. Le rôle de cet ermite de compagnie, comme celui des poules anglaises, des chevreuils ou colombes de parc, consiste à égayer la vue depuis les croisées du salon de la villa. Particularité bauloise, si l'ermite ornemental de Richard Hamilton III vécut dans une grotte frustre, il eut toutefois l'usage de toilettes privatives à chasse d'eau avec clapet anti-retour et siphon, mais des droits d'auteur pour l'usage étaient retenus sur son éthique salaire. Il est vrai que pour Richard Hamilton III, un véritable ermite ne se vautre pas dans la soie. Un salaire élevé serait contraire tant à sa vocation qu'à la beauté de sa tâche. On a garde d'informations sur Sir Big George, l'ermite ornemental de Richard Hamilton III, et premier ermite ornemental français, hormis le fait qu'il mourut en 1923 à l'âge de 24 ans. On lui en donnait 72, d'occlusion intestinale sur le chemin de l'hôpital de Saint-Nazaire, lors de la troisième année de son office, selon certains en conséquence de son manque d'argent. Tandis que son employeur, piqué de cette nouvelle science qui était alors le freudisme, parla pour sa part d'une victime tardive du stade anal, soit d'une invraisemblable avarice teintée de mélancolie. Sir Buck George refusant de payer trop souvent les droits d'auteur pour l'usage du clapet anti-retour et du siphon.
Si tu savais combien je t'aime, si tu savais le secret de mon corps, tu n'irais pas dans un blasphème, odieusement pour renier ce bonheur, et presse-moi.
Toutefois, Richard Hamilton III n'embaucha pas de nouvel ermite, s'étant attaché à celui-là, que sa fille aimait particulièrement entendre tousser du fond du parc, se sentant moins seul dans l'accablante maladie que le sort lui avait voulu. L'existence de Sir Big George avait toutefois fait une traînée de poudre. La bonne société des résidents baulois, qui étaient fascinés par les chics et fastes britanniques, avait été vite morte d'envie d'avoir elle aussi ses propres ermites ornementaux. De nombreux recrutements de pauvres pour cet emploi atypique eurent lieu des années 1921 à 1925. Au printemps 1926, on comptait, d'après la gazette Serres et Jardins de bon goût, près de 60 villas bauloises à posséder leur ermite ornementale, dont un tiers étaient des femmes, car payées moins cher par la classe moyenne. Une course à l'originalité avait même fait son apparition. D'aucuns voulaient plusieurs ermites à chaque coin de leur parc ou terrain, avec interdiction de communiquer entre eux. D'autres embauchaient des ermites à thème, Orient sauvage, Far West indien, Rivage funeste, Fruit de la passion. Certains même, qui se haussaient du col sans en avoir vraiment les moyens en termes de superficie de terrain, prirent des ermites de salon, avant de renoncer à cause de la difficulté à circuler dans leur propre maison, ou de la fumée dégagée par le feu de camp de bois vert, ou encore parce qu'ils ne supportaient plus d'entendre des psaumes ou des délires mystiques toute la sainte journée dans le couloir. La proximité de l'ermite remettait en question même sa fonction. « Un ermite qui vit parmi vous, en est-il un ?» s'interrogea avec pertinence le chroniqueur d'un magazine de décoration qui mit en garde sur l'usage réel que l'on fait de son ermite ornemental et appela à un juste retour à la raison. « Si vous n'avez pas la place pour une grotte, même dans le salon, renoncez à en prendre un. Trop de signes ostentatoires de confort peuvent hélas mener tant à l'encombrement qu'au ridicule. » Le phénomène des ermites ornementaux déborde rapidement la boule. Les Nantais fortunés, hâbleurs et teigneux, jaloux de l'essor de la boule, s'en entichent. Les Folies nantaises, ces riches demeures bâties jadis par des aristocrates, des négociants ou des négriers des environs de Nantes, ont aussi leur lot d'ermites ornementaux, qu'on fait parfois venir des colonies, pour les implanter dans des décors censés reconstituer des paysages exotiques. En pleine année folle, on voit s'exprimer toutes les fantaisies. Un ermite lunaire en hommage à Jules Verne, vivant dans une fusée obus, nombre d'ermites algériens, calédoniens ou sénégalais, comme dans les expositions coloniales, des ermites adeptes de ces nouvelles danses que sont la valse ou la mazurka, des ermites en tutu pour des ballets suédois, suivant la mode d'alors à Paris, des ermites inspirés de Josephine Baker, à qui il faut régulièrement changer la jupe en banane fraîche, qui sont livrés au hangar quai des Antilles dans l'île Beaulieu à Nantes. Au point, devant toutes ces confusions des genres, qu'on commence à parler de la nécessité d'instaurer un label, une sorte d'appellation géographique contrôlée associée à une fiche descriptive de l'uniforme et de la fonction, barbe, chevelure, robe, odeur, ainsi que la description des activités dites de cœur de métier, comme le grommelage de Bible, visant à corriger les abus, les dérives et la perte d'authenticité de l'ermite ornemental nantais. Des échauffourées entre propriétaires et curieux qui ont lieu en 1926 à Nantes, dans les parcs donnant sur les bords de la rivière l'Erdre, attirent l'attention. La populace se réclamant d'un saugrenu droit de passage, vient admirer les ermites ornementaux en longeant la rivière sur les abords des vastes propriétés, ou simplement pour leur jeter des pierres afin de s'amuser un peu. Ces incidents apitoient Jules Méricourt, un syndicaliste proudhonien, cheminot à la Compagnie d'Orléans. Ému par la condition des ermites, il décide de prendre fait et cause pour, je cite, « cette misère décorative autant à la mode à Nantes que les camélias, et qui fleurit partout aussi, mais qui est bien moins traitée, ne serait-ce que du point de vue des insectes parasites ». Il proclame que l'émancipation des ermites viendra des ermites eux-mêmes. Pourtant, les abords des propriétés bauloises durant ces temps de repos, Jules Méricourt essaie de rentrer en contact avec les pauvres ermites. L'affaire échoue devant les difficultés. Il raconte « Je me heurtais à des murs, et pas seulement ceux si hauts qui entouraient les parcs d'où il m'arrivait de tomber, sous les coups des gardes-chasse ou des jardiniers. Les ermites ne m'écoutaient même pas, restant sourds à mon souhait d'une action collective. » Amer, il abandonnera sa juste cause non sans écrire un opuscule sur une théorie de la grève individuelle, avec en annexe un article intitulé « La solitude de l'ermite au fond de sa grotte », qui laissera indifférent dans les rangs militants le combat de défense de l'ermite étant jugé trop isolé. La mode des ermites ornementaux commence à se dissiper vers 1928, parce que leurs employeurs aisés se mettent à préférer aller voir ou s'aménager chez eux cette formidable nouveauté qui se répand, le cinéma parlant. Il faut reconnaître qu'une fois l'enthousiasme passé, le spectacle d'un ermite ornemental est un peu ennuyeux. Reconnaît là, et au moment de se séparer des siens, Cébron de Lille, propriétaire de la folie nantaise le château de Boisbriand. Son parc comprend alors une dizaine d'ermites sales et hirsutes, qui avaient été toutefois remarquées pour leur certaine modernité, car mis en réseau via un ingénieux système de boîtes de conserve attachées entre elles par des kilomètres de fil. Et en vérité, expliqua Cébron de Lille, quand je les regarde ces ermites, en fait, ils me donnent juste envie de me gratter.
Pour les amateurs de chansons réalistes, la plus batte des Java. Je vais vous raconter une histoire arrivée à Nana et Jules aux gueules d'acier. Et pour vous raconter ça, il fallait une Java. J'en ai fait une batte, écoutez-la. Mais je vous préviens surtout, je suis pas poète du tout. Mes couplets ne riment pas bien, mais je m'en fous. Le grand Julon et Nana sur un air de Java. Parce qu'en Europe, pas le musette sur un air de Javette. Elle lui dit, j'ai le béguin sur un air de Java. Il répondit, tant mieux.
Petit bonus, cette histoire, écrite et parue en février 2014, a depuis grandement inspiré une dessinatrice de BD qui l'a inclus dans sa propre histoire. Il s'agit de Gabrielle Piquet et l'album s'appelle La mécanique du sage aux éditions Atrabilé. C'est paru en janvier 2020.
Écoutez ça, c'est chouette.